Nous allons nous interroger sur les manifestations de l'amour du Sacré-Cœur pour la France. Rappelons tout d'abord que la Providence a, semble-t-il, voulu que ce soit un Gaulois, vous le savez, Saint Longin, qui, lors de la crucifixion, aurait eu cette importante mission de s'assurer de la mort de notre Seigneur et d'ouvrir son divin cœur, d'où jailliront l'eau et le sang. C'est par lui que les fleuves d'eau vive, dont nous sommes tous irrigués aujourd'hui par les sacrements, ont jailli et ont été manifestés. Saint Longin, grand mystère qui a valu, selon la tradition, la sanctification de Longin, devenu Saint Longin. Notons également que l'enfant Jésus de Beaune était intervenu auprès de la vénérable Marguerite du Saint-Sacrement pour demander des prières pour que le roi ait un descendant. Notre Seigneur a ainsi montré que le destin de notre pays ne lui était pas indifférent. Cela s'est confirmé à plusieurs reprises dans l'histoire de notre pays. Notons quelques éléments clés, quelques moments clés, et arrêtons-nous maintenant sur ceux de notre pays qui ont eu un lien très particulier avec le cœur de Jésus. Évidemment, la première à laquelle nous pensons tout de suite, c'est Sainte Marguerite Marie, au XVIIe siècle. Vous le savez, à Sainte Marguerite Marie, Jésus ouvre son cœur et fait entendre la plainte de son amour. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Jésus nous présente son cœur blessé par nos offenses et nos ingratitudes. Par Sainte Marguerite Marie, il se fait mendiant de notre amour. Il nous invite à réparer les offenses faites à son cœur. Et vous le savez, Jésus nous donne pour cela trois moyens principaux que vous connaissez certainement. L'heure sainte, c'est-à-dire s'unir à Jésus le jeudi soir pendant une heure, en lien avec Gethsémani, qui est le lieu où Jésus a le plus souffert. Et Jésus nous invite par Sainte Marguerite Marie à lui tenir compagnie chaque jeudi soir. Premier élément donc, l'heure sainte. Second élément demandé par Jésus, la pratique des 9 premiers vendredis du mois. Jésus nous incite à communier en esprit de réparation des offenses qui lui sont faites dans le Saint-Sacrement. Et Jésus dit que ceux qui le feront le premier vendredi de 9 mois consécutifs, ils auront cette assurance de la grâce de la pénitence finale. Il leur promet d'être un asile assuré à l'heure de la mort. Troisième pratique demandée par Jésus à Sainte Marguerite Marie, l'institution d'une fête en l'honneur de son cœur, le vendredi après l'octave de la fête du Saint-Sacrement. Notre Seigneur demande qu'en ce jour, on communie et qu'on lui fasse une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. À ceux qui lui rendront cet honneur, le Sacré-Cœur promet de répandre avec abondance les influences de son divin amour. Jésus veut répandre ses bienfaits sur chacun. Avec Sainte Marguerite Marie, il nous manifeste la profondeur de son amour. Son désir est de répandre son règne dans les cœurs et sur les peuples. Aussi, en 1689, Jésus va demander au roi, par Marguerite Marie, de consacrer sa personne, ses sujets et son royaume à son divin cœur. Il promet en retour de nombreux bienfaits et une grande prospérité. Alors Louis XIV a-t-il eu connaissance de cette demande? On le pense, en tout cas, il ne l'a jamais réalisée. Mystérieusement, rien n'a été fait. À toutes les personnes et les familles qui se tournent vers lui, le Sacré-Cœur a promis par Sainte Marguerite Marie de nombreuses grâces et bénédictions. La prière des litanies nous montre que chacun peut puiser en ce divin cœur les grâces dont il a besoin pour se relever, progresser, se sanctifier. Donc étonnamment, Louis XIV ne va rien faire. Je vous cite cette apparition des 16-17 juin 1689, fait savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, ce fameux petit enfant Jésus de Beaune dont je vous parlais tout à l'heure, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien et par son entremise de celui des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint dans ses étendards et gravé dans ses armes pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes pour le rendre triomphant de tous les ennemis de la Sainte Église. Une citation donc, de cette apparition. Sainte Marguerite Marie écrira le 28 août 1689 au Père Croisé en lui disant que cette consécration avait été demandée en réparation des offenses faites à son fils dans la maison des princes de la terre. Donc demandée par le Père, dit Sainte Marguerite Marie. Son dessein était d'établir son empire sur le roi de France. Dieu désirait un édifice où serait exposé un tableau du divin cœur destiné à recevoir les hommages du roi et de la cour. Sainte Marguerite Marie annonce également au Père Croisé que le divin cœur veut protéger et défendre le roi de tous ses ennemis visibles et invisibles et qu'il l'a choisi pour faire instituer la messe en son honneur par le Saint-Siège apostolique. Ce qui est assez touchant dans cette apparition, c'est qu'il s'agit finalement d'un vrai traité d'alliance entre le cœur de Jésus et la France, qui est proposé par notre Seigneur. La part du roi, c'est la consécration de sa personne et de sa cour au cœur de Jésus, la position du Sacré-Cœur sur les armes du roi, la position du Sacré-Cœur sur les étendards, la construction d'un édifice où serait exposé et honoré le Sacré-Cœur, obtenir du Saint-Siège la messe et tous les privilèges pour l'établissement du culte du Sacré-Cœur et que le roi de France fasse triompher le règne du Sacré-Cœur auprès des rois et des grands de la terre. Ça, c'est la part du roi. La part du Sacré-Cœur, eh bien, si le roi accepte ainsi de devenir le lieutenant du Sacré-Cœur et d'être le porteur de cette dévotion auprès des autres monarques et dans le monde, notre Seigneur, en échange, lui promet des grâces et une protection absolument extraordinaire, ainsi que la victoire sur tous ses ennemis, visibles et invisibles, qui sont également ceux de l'Église. Donc, comme nous le disions à l'instant, donc mystérieusement, Louis XIV n'a rien fait. Sainte Marguerite Marie est passée par son confesseur, qui est passé par le confesseur de Louis XIV. Mais donc, on ne sait pas pourquoi Louis XIV n'a pas fait cette consécration. Il a financé une partie de la première chapelle dédiée par Saint Jean-Eudes au Sacré-Cœur, sans doute une chapelle à Caen, mais il n'a pas fait cette consécration demandée. À partir de 1689, il va connaître ses premières défaites, et 100 ans plus tard, ce sera la Révolution française. Notons cependant que l'épouse de Louis XV, Maria Leszczynska, obtiendra l'établissement de la fête du Sacré-Cœur en France, et que Louis XVI fera cette consécration. Donc Louis XVI en avait eu conscience, il en avait eu connaissance, il la fera, il se consacrera, mais de façon privée, et alors qu'il est au temple, il démit de ses fonctions. Sainte Marguerite Marie, c'est donc la première, effectivement, que nous rencontrons sur ce petit pèlerinage en France, sur les traces du cœur de Jésus. Saint Jean-Eudes également, qui est quasi contemporain de Sainte Marguerite Marie. Alors nous avons déjà parlé de lui, mais rappelons que nous lui devons le premier office liturgique du Sacré-Cœur, en 1641, un grand dévot du cœur de Jésus. Après quelques autorisations spéciales accordées à la France, à la Pologne, puis à Rome, la fête du Sacré-Cœur sera finalement étendue à l'Église universelle par Pie IX en 1856, et ainsi sera réalisé le souhait exprimé par notre Seigneur en 1675. Il faut du temps, il y a deux siècles. Sainte Marguerite Marie, Saint Jean-Eudes, Mère Marie de Jésus, 1797-1854, c'est une religieuse du couvent des Oiseaux de Paris. Elle reçoit des messages du Sacré-Cœur, je vous cite celui du 21 juin 1823. « La France est toujours bien chère à mon cœur, et elle lui sera consacrée, mais il faut que ce soit le roi lui-même qui lui consacre sa famille, sa personne et tout son royaume à mon divin cœur, et qui lui fasse élever un autel, comme on en a élevé un, au nom de la France, en l'honneur de la Sainte Vierge. » Référence à ce dont nous parlions hier, la consécration de la France à Notre-Dame par Louis XIII, en 1638. Le Seigneur poursuit, « Je prépare à la France un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon divin cœur, et que toute la terre se ressentira des bénédictions que je répandrai sur elle. La foi et la religion refleuriront en France par la dévotion à mon divin cœur. Après Mère Marie de Jésus, citons la Bienheureuse Marie de Jésus crucifié, 1846-1878, à plusieurs reprises, en 1873, Marie de Jésus crucifié annonça une guerre qui ferait verser des fleuves de sang. Le 16 février 1874, « Hier, je me sentais devant Dieu et je priais pour notre mère, la Sainte Église et pour la France. Voici ce que j'ai entendu. Oui, je ferai mes délices dans le sein de la France. Elle sera encore la reine de tous les royaumes. Mais avant, il faut que la passoire passe. Il faut que la France soit tout à fait rien pour que je sois à la tête des armées, afin que toutes les nations disent entre elles, de génération en génération, « Vraiment, c'est le Très-Haut qui est à la tête de la France. Toutes les générations le crieront d'une même bouche, d'une même voix, sur le même ton, même les impies. » Nous sommes en 1873. 13 mai 1874, Marie de Jésus crucifié, donc Bienheureuse Marie de Jésus crucifié entend, « Je vous avertis, comme je vous ai averti 2 mois avant les guerres qui arrivèrent en France. Mais ce que je vous annonce sera 10 fois plus terrible que ce qui est arrivé alors en France. » Le 16 juillet 1876, « Ô cher Rosier, tu fais la joie de mon cœur. On y bâtira un grand salon pour le maître. » Et le Seigneur dit, « Je viendrai habiter avec ma lumière, avec le soleil en plein jour. Mais avant, on brûlera les épines. Oh, qu'il sera beau le rosier. On sème sur la terre du rosier beaucoup d'épines parce qu'il y a beaucoup de petits vers qui mangent le suc des bonnes plantes. » Et le Seigneur a dit, « S'il y a des bonnes plantes, mettez-les dans un trou et cachez-les. Plantez des arbres épineux, comme il y a beaucoup de moucherons, ils viendront se poser sur ces épines. Alors on y mettra le feu et les voilà tous brûlés. Et le cher petit rosier, qui semblait sur le point de mourir, attendez encore un peu et vous verrez comme il sera beau. Mais ce sera long. Il faut encore un peu de temps. » 1878, il y aura un mauvais gouvernement en France, les religieux seront chassés, référence à 1905. Il faudra faire des lieux pour se confesser. Les Allemands reviendront en France, mais ils seront écrasés, on sera forcé de dire « le doigt de Dieu est là » et la France deviendra plus brillante que jamais. Ça, c'était Marie de Jésus crucifié. Nous avons également Adèle Garnier, qui est la fondatrice de la Congrégation des Adoratrices du Très-Sacré-Cœur de Jésus de Montmartre. Le 7 décembre 1873, notre Seigneur demande à Adèle qu'une église soit érigée pour rendre un culte à son cœur eucharistique avec exposition perpétuelle du Saint-Sacrement. Ce sera Montmartre. Notons également le cas du général de Saunis. Vous le savez, fin 19e siècle, c'est la guerre contre la Prusse. Une bannière à l'effigie du cœur de Jésus est réalisée. Elle sera portée en étendard par les zouaves pontificaux et sera un emblème cher au général de Saunis. Par elle, Jésus accompagnera les zouaves dans le combat difficile mais décisif de Loigny-la-Bataille. Fin 19e, c'est aussi Madame Royer. En 1873, notre Seigneur demande à nouveau que la France lui soit consacrée. Le Seigneur revient dessus. Nous sommes cette fois-ci sous Napoléon III, la consécration n'est pas faite, mais il y a un véritable élan national envers le Sacré-Cœur, et c'est la construction de Montmartre qui sera déclarée œuvre d'utilité publique. Nous arrivons cette fois à la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, nous sommes sous la République. Notre Seigneur a demandé à ce que la France lui soit consacrée sous la monarchie, sous Napoléon III. Et il va réitérer sa demande sous la République. Nous sommes en 1917. Et voilà que notre Seigneur s'est penché sur un petit village situé à quelques kilomètres de Cholet, celui de Loublande. Dans ce petit village, le Seigneur avait choisi une jeune paysanne, Claire Ferchaud. Claire était née en 1896. Elle a grandi avec Jésus à ses côtés. Et lui-même s'était chargé de son éducation spirituelle. Voici qu'un jour, notre Seigneur se montre à elle avec un cœur tout déchiqueté, blessé d'une grande plaie, et lui dit « Voici la plaie que me fait la France. » En 1917, notre Seigneur va réitérer sa demande que la France lui soit consacrée, et qu'en signe de consécration, l'emblème du Sacré-Cœur soit apposé sur le drapeau. Le 21 mars 1917, Claire Ferchaud, avec les encouragements du cardinal Hamet, va rencontrer le président Poincaré. Il s'agit là d'un fait historique qui a même été relaté dans les journaux de l'époque. L'entrevue s'est déroulée à Paris. Poincaré demande évidemment à Claire de lui apporter la preuve de ce qu'elle dit, ce qu'elle dit est vrai. Et Claire lui répond simplement « Monsieur le Président, tel jour à telle heure, vous vous êtes mis à genoux, vous avez imploré le secours du ciel pour la France. Je viens en réponse à cette prière. » Poincaré est évidemment touché. Claire Ferchaud est arrivée avec une reproduction, donc une image du cœur de Jésus tel qu'il s'était montré à elle, avec ce cœur déchiqueté. Et voilà que par trois fois, Poincaré va mettre une feuille sur le cœur. Il a du mal à soutenir cette vision, cette vue. Et à chaque fois, Claire Ferchaud retire la feuille. La troisième fois, Claire Ferchaud lui dit « Monsieur le Président, regardez-le. C'est ainsi que notre Seigneur se montre à la France. Voilà la plaie que lui fait la France. » Poincaré est ébranlé. Il dit qu'avec le gouvernement qu'il a, il ne pourra jamais imposer cette consécration. Claire Ferchaud lui répond simplement « Monsieur le Président, à situation exceptionnelle, pouvoir exceptionnel, vous pouvez très bien l'imposer à votre gouvernement. » « Je vais voir ce que je peux faire », lui dit Poincaré. Claire Ferchaud sait déjà que rien ne sera fait, puisque ce jour-là, il y avait eu, quand elle est arrivée à Paris, une éclipse. Paris était dans la nuit, à 3h de l'après-midi, et elle y avait vu un signe que, très vraisemblablement, Poincaré ne ferait rien. Effectivement, Poincaré n'a rien fait. Il s'est converti, il a fait une très belle mort, mais il n'a pas fait cette consécration. Cependant, cela s'est connu, ça a été connu, et les soldats qui partaient sur le front demandaient souvent d'avoir un petit drapeau du Sacré-Cœur, en se mettant sous la protection aussi de notre Seigneur. Claire Ferchaud, quant à elle, va transmettre cette demande aux généraux. Elle va transmettre cette demande aux généraux, et c'est Foch qui va être particulièrement touché par cette demande, et qui va faire la consécration de l'armée française au cœur de Jésus. C'est le 17 juillet 1918, au moment où tout paraît perdu, devant la ruée allemande victorieuse, le maréchal Foch, généralissime des armées alliées, consacre l'armée française au Sacré-Cœur dans l'église de Bonbon, où l'on peut voir d'ailleurs un ex-voto, grandeur nature, de Jésus, du Sacré-Cœur, tenant la croix et marqué dessous, donc inscrit dessous, ex voto, du général Foch. Et voici que, effectivement, à partir de là, c'est l'aube de la victoire. Notons enfin pour finir, et pour marquer ce lien particulier du cœur de Jésus avec la France, Sœur Isabelle vous citera, vous donnera quelques citations tout à l'heure, ce petit Marcel Van, un Vietnamien, à qui Jésus a révélé à maintes reprises l'amour qu'il avait pour notre pays, en demandant par Marcel Van que les Français se tournent vers lui et l'invoquent. Voici donc pour cette petite trame, donc bien incomplète bien sûr, du lien que le Seigneur veut tisser avec notre cher pays. Alors, il est juste que nous soyons un peu tristes pour toutes les fois où nous-mêmes, comme dans notre pays, nous avons rejeté l'amour de Dieu. Pour autant, ne nous décourageons pas. Cette France que le Seigneur aime est composée de chacun de nous. Chaque fois que nous disons oui à Dieu, chaque fois que nous voulons l'aimer, le consoler, chaque fois qu'une personne ou une famille de notre pays se consacre à Jésus et Marie, c'est aussi cette parcelle de France qui, par elle, est consacrée à Jésus et Marie. Donc, haut les cœurs, mais je laisse Sœur Isabelle vous donner des raisons d'espérer.
Alors, je vous propose donc de peut-être d'essayer de passer de l'espoir à l'espérance. Pourquoi ? Eh bien parce que le constat que nous pouvons faire de la France, de l'Occident, du christianisme en Occident en tout cas, est quand même affligeant. Hein, je ne vais pas dresser une liste, vous la connaissez. Après, disait que c'était le siècle du mensonge, du maquillage, et notamment à cause de la négation de la nature par les mots que nous pouvons déjà employer. On utilise la langue française en la pervertissant. Hein, c'est l'emploi, par exemple, de faux slogans, comme « de mourir dans la dignité », voilà, pour parler de... tout simplement de l'euthanasie, voilà, comme s'il était indigne de souffrir, comme si parce que je souffre, eh bien je perds ma dignité, hein, mais c'est faux. Voilà, on emploie la langue française dans la plus grande des perversités, Et puis on maquille la vérité, on fait croire qu'un mal est un bien. Et ce qui est affligeant, c'est que eh bien, c'est l'air que l'on respire. Hein, c'est l'air pollué que nos enfants, vos enfants respirent. Voilà. Bien sûr, le tableau de la décadence de l'Occident et du monde peut paraître sombre. Mais déjà, hein, le pape Benoît XVI lui-même disait en 2005 à Subiaco, un mois avant son élection au siège de Pierre, « L'Occident traverse une crise qui ne s'est jamais égalée dans toute l'histoire de l'humanité. » Voilà. Donc la réalité est là. Ce qui paraît désormais au grand jour, eh bien, a des causes profondes qu'il faut avoir le courage et l'honnêteté de dénoncer avec clarté. Le cardinal Robert Sarah, hein, on donne les racines, je le cite, « La crise que vivent le clergé, l'Église, l'Occident et le monde est radicalement une crise spirituelle, une crise de la foi en Dieu. On ne peut pas dire, dit-il, qu'il n'y a pas de crise de la foi, alors que nous voyons bien que les églises, dans la plupart des pays européens, se vident. » Et il cite en exemple l'Allemagne, qui, chaque année, eh bien, compte 200 000 catholiques de moins, hein, 200 000 catholiques qui quittent l'Église, et pareillement 300 000 protestants qui quittent l'Église protestante. Hein. Et de poursuivre, la baisse de la foi en la présence réelle de Jésus-Christ est au cœur, pense-t-il, exprime-t-il, de la crise actuelle de l'Église et de son déclin, surtout en Occident. Pour lui, la cause profonde, c'est qu'on ne croit plus réellement à la présence réelle de Jésus-Christ. Donc c'est vrai que notre époque ne prête guère à l'optimisme, en quoi Bernanos voyait une fausse espérance, disait-il, à l'usage des lâches et des imbéciles que l'optimisme. La crise financière et économique, le changement climatique, le terrorisme, la pénurie alimentaire, la montée des fondamentalismes religieux, chaque jour amène son lot de menaces et d'inquiétudes, écrit Jean-François Chemin dans La vocation chrétienne de la France. Nous pourrions aussi ajouter depuis crise sanitaire et surtout, plus grave encore, l'apostasie sournoise, croissante, et les atteintes à la vie humaine depuis sa conception jusqu'à son terme naturel. Jean-François Chemin poursuit, l'espérance semble morte, je le corrigerai, je dirais l'espoir semble mort, le matérialisme, la culture de mort l'ont tué, l'on se prend à ruminer inlassablement des pensées sombres, à s'enfoncer dans un désespoir auquel la logorrhée de l'époque interdit d'échapper. N'y a-t-il plus donc d'espoir ? Eh bien, bonne nouvelle, c'est là qu'intervient l'espérance. Voilà, l'espérance, qui est cette vertu théologale, je le rappelle, reçu à notre baptême avec la foi, la charité, vertu théologale, donc surnaturelle, donc au-dessus de notre nature, au-dessus de nos moyens humains, de notre raison humaine. Elle est ce désespoir surmonté, hein, selon les termes de Bernanos. Monseigneur David Macaire, hein, évêque de Martinique, dans une conférence à la Castille en 2012, disait « Un de mes frères, Thierry Dominique Imbrecht, vient d'écrire un livre, L'évangélisation impertinente, guide du chrétien au pays des postmodernes. Mon frère, dit-il, explique que notre pays est celui où l'on a remplacé Dieu par l'homme. Quand on a dit cela, on a tout dit. C'est l'explication de l'absence de l'évangile dans notre pays. Le siècle des Lumières est le siècle qui a permis le remplacement de Dieu par l'homme, et tout en découle même la montée de l'islam. Tout découle de ce principe qui essaie de combattre l'évangile dans notre pays et qui prétend acquérir cette civilisation de l'amour à laquelle la France est dévouée, non dans et par l'humilité, mais par la puissance de l'homme et son intelligence. On a, dit-il, remplacé Dieu par l'homme, l'Église par l'État, la foi par la science, avec des gros guillemets parce que la science devient sans Dieu, il n'y a plus de foi, d'espérance et d'amour. Mais, ajoute-t-il, ce qui va profondément sauver la France, ce sont, comme toujours, la foi, l'espérance et la charité. C'est de cela que la France a besoin. Notre pays s'effondre s'il n'a pas ces trois vertus, car c'est notre squelette spirituel de Français. Alors, quelles sont nos raisons d'espérer ? Eh bien, je mettrai en première raison notre histoire. Voilà, celle que nous évoquons depuis hier, la vraie histoire de France qui fait aimer la France et finalement nous donne envie de nous battre pour elle. J'ai étrangement l'intuition que s'il nous reste une raison objective de ne pas désespérer, écrit encore Jean-François Chemin, C'est dans l'histoire de la France que nous pouvons la trouver. Notre nation, vouée depuis l'origine à la défense de l'Église catholique romaine, a traversé bien des épreuves depuis sa naissance par le baptême de Clovis, il y a 15 siècles, mais toujours elle s'est relevée. La protection surnaturelle dont elle semble bénéficier a été régulièrement, au cours des siècles, exprimée de la façon la plus officielle par les papes, nous l'avons vu, hein, les successeurs de ce Pierre placé par le Christ lui-même à la tête de l'Église. Voilà, c'est ce que faisait dire encore à Mgr Macaire dans une autre conférence. Je crois que la France a macéré dans l'Évangile. C'est pour cela qu'il y a de beaux restes. De tout temps, l'Évangile a été là. Il n'est pas venu après elle, il a fondé le début de ce pays. L'Évangile est dans la culture, le territoire, la psychologie, la vie de la société, le moral. L'être de la France a des parcelles d'Évangile, des parcelles surnaturelles qui sont tellement là. Cela, c'est une gloire de l'Évangile. Une gloire de l'Église, une gloire de l'évangélisation. Cette gloire demeure, et Dieu fasse que les nouveaux évangélisateurs de la nouvelle évangélisation puissent être à ce point marqués de l'Évangile pour le salut des hommes. Voilà, première raison d'espérer, l'histoire. Deuxième raison d'espérer, j'aurais peut-être dû le mettre en premier, eh bien c'est Jésus, la Vierge Marie, les saints de France. Eux croient au relèvement spirituel et temporel de la France. Souvenez-vous, ce que disait la Vierge Marie dans le songe de Saint Rémy, « Ne craignez pas, je suis là et je veille. » Voilà, la Vierge Marie n'a cessé de nous le rappeler au cours des siècles. Elle est mère et reine de France. Et elle a, comme nous l'avons vu, répondu à chaque fléau de notre histoire par des apparitions. Saint Jean-Marie vous en a fait une fresque hier, Cotignac en réponse au protestantisme, Lelot en réponse au jansénisme, Notre-Dame de Liesse en réponse aux Lumières, Notre-Dame de la rue du Bac avant la Révolution de Juillet, Lourdes pour freiner le scientisme, Pontmain contre les Prussiens, l'île Bouchard contre le communisme, etc. etc. Alors j'entends souvent dire ma sœur, la Vierge Marie, elle pourrait bien apparaître en ces temps difficiles. Voilà. D'abord, peut-être qu'elle apparaît, je ne le sais pas. Voilà. Mais si elle apparaît, peut-être, une chose est sûre, c'est que je pense qu'elle ne dirait pas autre chose que ce qu'elle n'a cessé de conseiller à chacune de ses apparitions. Avec ce message particulier, par exemple, de l'île Bouchard, « Priez pour la France, qui ces jours-ci est en grand danger. Dites le chapelet pour la France. » Voilà, elle ne donnerait pas d'autre remède que la prière du rosaire, comme à chacune de ses apparitions, jusqu'à celle de Fatima, dont le message est universel, et où Marie se nomme Notre-Dame du Rosaire. Souvenez-vous de ce que disait Jésus à Marcel Vannes. « Vannes, le parti le plus puissant est celui de la prière, et c'est ce parti-là qui sauvera la France. » Voilà. Le croyons-nous vraiment ? Sommes-nous prêts à changer nos habitudes, peut-être un peu routinières, de prière, de moins à réfléchir à la manière dont nous pourrions répondre à ces appels pressants de notre mère ? Autre raison d'espérer, les saints de France, nous ne pouvons, faute de temps, nous attarder sur tous les saints qui ont forgé la chrétienté de notre France, mais je voudrais plus développer ce que certains ont pu dire de notre pays et qui doit alimenter notre espérance. Alors, il y a ces nombreux saints de France qui continuent de veiller sur la France. Saint Jean-Paul II disait le 1er juin 1980, dans son homélie prononcée au Bourget, un très grand chapitre de cette histoire de l'Église a été inscrit dans l'histoire de votre patrie par les fils et les filles de votre nation. Il serait difficile de les nommer tous, mais j'évoquerai au moins ceux qui ont exercé la plus grande influence dans ma vie, dans la vie d'un prêtre polonais. Jeanne d'Arc, François de Sales, Vincent de Paul, Louis-Marie Grignon de Montfort, Jean-Marie Vianney, Bernadette de Lourdes, Thérèse de Lisieux, sœur Élisabeth de la Trinité, le père de Foucault et tous les autres. Ils sont tellement présents dans ma vie de toute l'Église, tellement influents par la lumière et la puissance de l'Esprit Saint. Et bien qu'ils continuent de nous influencer. Et puis il y a donc ce que les saints ont pu dire. Sainte Marie de Jésus crucifié, qu'on appelle aussi Mariam, la petite palestinienne, qui est morte en 1878, Vous savez que la France, dans ses visions, était le rosier, hein, un rosier, comme la Sainte Église était l'olivier. Voilà. Le rosier, disait-elle, était malade, il n'était point mort. Le jardinier s'apprêtait à l'émonder vigoureusement pour lui communiquer une vie nouvelle, et elle voyait déjà le rosier s'épanouir en une multitude innombrable de belles roses parfumées. En 1875, le 3 juillet, elle avait entendu un personnage inconnu lui dire « Consolez-vous, viendra un temps à venir, c'est loin d'ici, mais nous sommes en 1875, où la France deviendra reine. Mais avant, il faut qu'elle subisse beaucoup d'humiliations, plus encore qu'elle n'en a jamais eu. Après, le Seigneur triomphera et sera à la tête de ce royaume. Viendra un temps qui paraît loin, très loin aux yeux de l'homme, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas loin, où la France sera reine aussi. » Et lorsque les carmélites de Bethléem, hein, dont elle appartenait à la communauté des carmélites de Bethléem, eh bien, parlaient en récréation de leur chère et lointaine France, eh bien, le regard de la petite sœur Marie de Jésus crucifié s'illuminait, et elle s'écriait « Oh oui, bientôt la France triomphera, bientôt elle sera la reine des royaumes. » Il y a aussi toutes ces confidences de Marcel Vannes, en tout cas aussi par le biais de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Marcel Vannes, voilà, ce petit vietnamien qui est mort dans les geôles communistes au Tonkin en 1959. Eh bien, en 1941, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus lui demande de prier pour la France et le Vietnam. Et la réaction de Vannes est violente, qui est liée à son histoire, à l'histoire de notre pays, avec le sien, d'où ce dialogue entre les deux. Vannes, tuer un seul Français suffirait à mon bonheur. Et Thérèse lui répond, un revolver, qu'est-ce que ça vaut? J'ai une autre tactique, capable de tuer des millions de Français sans révolte, sans soldats et sans munitions. Il s'agit de la tactique de la prière. Il s'agit de tuer dans le Français ce que Dieu veut voir transformé par la prière. Et le 18 novembre 1945, dans une vision sur la France, Thérèse lui dit encore, « Petit frère, tous les samedis, après avoir récité avec moi la prière, ô Jésus, nous consacrons la France à ton amour, et les jours ordinaires, après avoir récité l'Angélus, tu diras avec moi, ô Marie, nous t'en prions, sois le soutien de la France. Récite aussi cette prière en français, et je veux que les carmélites la récitent également. » Vous voyez, c'est quelque chose de tout simple qu'on peut mettre en pratique, on appelle les oraisons jaculatoires, ou des petites flèches d'amour qu'on lance, hein, dans notre journée, dans notre quotidien. Voilà. Ô Marie, nous t'en prions, sois le soutien de la France. La Vierge Marie lui est apparue en disant « Ô mon enfant, continue de beaucoup prier pour la France, mais il faut que tu pries aussi pour que chaque Français comprenne bien que son pays jouit de la protection spéciale de l'amour de Jésus. » Et puis il y a les saints d'aujourd'hui qui nous donnent plein d'espérance, c'est-à-dire ceux qui ne font pas de bruit, voilà. Ceux qui sont encore cachés, ignorés, hein. Vous avez dans votre vie des exemples. Moi, je pense à Alex, voilà, un jeune qui a débarqué à notre patronage de la Consolation il y a 3 mois, un jeune qui sort de nulle part, orphelin de mère, et qui, d'un seul coup, alors qu'il a 14 ans, eh bien, décide de vivre à plein de son baptême, ce qu'il n'a pas fait auparavant, hein, et qui considère que comme une chance d'être le seul catholique de son collège, parce qu'il comprend la mission que le Seigneur lui a confiée. Voilà. Et qui, d'un seul coup, bien, s'inscrit au scoutisme, à la première communion, voilà, au catéchisme, etc. Voilà. Il y a beaucoup d'exemples comme cela, ou encore ces deux jeunes baptisés, hein, qui n'étaient jamais allés plus loin que leur baptême. Et puis jusqu'au jour où ils se sont intéressés au patrimoine architectural de la France, à ses cathédrales, et puis qui en ont été éblouis, voilà, jusqu'à revenir à une foi pratiquante, authentique. On peut penser à ces couples, ces familles, hein, qui tiennent dans la tourmente, voilà, tous ceux qui refusent parfois de manière héroïque, eh bien, les compromissions avec l'esprit du monde, hein, autant de sacrifices cachés pour la France et qui sont forcément invisibles à nos yeux. Hein. Richelieu disait « Des petites étincelles naissent les grands embrasements ». Et puis, ça rejoint notre histoire, mais le Seigneur ne peut oublier tous les missionnaires, hein, tous ceux qui ont donné leur vie pour l'Église, pour la France, hein, que ce soit dans le martyre ou qui ont versé leur sang dans les guerres. Voilà. En France, affirmait Saint Jean-Paul II, encore en juin 80, à l'Institut catholique de Paris, « L'Église a été depuis bien longtemps une Église missionnaire,
anticipant par là les orientations du Concile Vatican II. Sans remonter plus haut, cette activité missionnaire suffirait amplement à la gloire du siècle dernier, siècle magnifique où le dynamisme de la foi, loin de se laisser abattre devant l'ampleur de la tâche, s'est épanoui en une foule de familles chrétiennes, de vocations sacerdotales et religieuses, d'institutions de toutes sortes qui ont largement dépassé les frontières de France. Et c'est ce qui fit dire à Sainte Marie de Jésus crucifié, à l'adresse d'un prêtre, « La France a fait trop de bien dans les missions pour que Dieu l'abandonne. » Autre raison d'espérer, eh bien, les confidences de Jésus aux saints. Voilà, Sœur Geneviève Marie vous a parlé de Claire Ferchaud. Elle disait « La France sera libérée des ennemis de l'intérieur et de l'extérieur. On voudra supprimer le nom de France de la carte. » Ça, c'est une confidence qu'elle a reçue de Jésus. « Je le réécrirai avec des lettres d'or. » Et notre Seigneur ajoutait « Ô la France, comme elle sera belle un jour, non Satan aura beau faire, jamais la France ne lui appartiendra. » Le 9 novembre 1945, Jésus dit à Marcel Vannes « Vannes, n'oublie pas le pays que j'aime le plus, tu entends. C'est en France que mon amour s'est tout d'abord manifesté. Hélas, mon enfant, pendant que le flot de cet amour coulait par la France et l'univers, la France sacrilègement l'a fait dériver dans l'amour du monde, de sorte qu'il va dérivant peu à peu. C'est pourquoi la France est malheureuse. Pour commencer à répandre sur elle mon amour, je n'attends désormais qu'une chose, que l'on m'adresse assez de prières. Alors, mon enfant, de la France, mon amour s'étendra dans le monde. Mais pour cela, il faut beaucoup de prières, car nombreux encore sont ceux qui ne veulent pas se montrer zélés pour ma cause. Surtout prie pour les prêtres de France, car c'est par eux que j'affermirai en ce pays le règne de mon amour. » C'est bouleversant de penser qu'il s'adresse à un petit Vietnamien. Le 10 novembre 1945, Jésus dit à Marcel Vannes « Ô mon enfant, écoute et écris ce que je vais te dire au sujet de la France. Mon enfant, prie pour le pays que j'aime particulièrement, la France. La France, si on ne prie pas, elle sera encore une fois malheureuse, et le règne de mon amour ne pourra que difficilement s'y établir. » Le 11 novembre 1945, j'ai dû faire un tri dans les citations, mais « Mon enfant prie pour le pays que j'aime particulièrement. L'ennemi veut faire de ce pays un foyer de discorde. Mon enfant, il faut beaucoup de prières. France, France, promets-tu de m'être fidèle? Es-tu décidé à protéger et étendre le règne de mon amour dans le monde? Si on voit la France jouir de la paix, ce sera un signe que l'on aura beaucoup prié. Ô mon enfant, prie pour la France. Plus tard, tu me verras donner à la France un joyeux sourire. » Le 12 novembre 1945, Jésus lui dit encore « Pour bien faire partout où il y a des Français, on devrait, comme je le désire, faire monter vers mon amour l'encens de la prière. » Si on ne comprend pas que c'est la prière qui va sauver la France, « Ô petit apôtre de mon amour, écris les paroles que je t'adresse au sujet de la France. Hélas, ô France, pays que j'aime particulièrement, ton devoir envers moi n'est pas un devoir ordinaire. Ô France, je t'aime, et vous, Français, savez-vous bien quels sont les sentiments de mon cœur? Voyez-vous mes larmes qui se mêlent à celles d'un étranger occupé à écrire les paroles que je lui dicte pour vous? Ô France, je te presse dans mes bras, je te donne un baiser. Il n'est pas possible que tu profites de cette marque de tendresse pour me frapper en plein visage. Ô France, pays que j'aime plus que les autres, entends l'appel de mon amour. » Le 14 novembre 1945, vous connaissez cette prière dictée par Jésus à Marcel Vannes, à l'intention des Français. Seigneur Jésus, aie compassion de la France, daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute la tendresse. Fais que remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester à jamais fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. « Ô mon enfant, ajoutait Jésus, dis aux Français que cette prière est celle-là même que je veux entendre de leur bouche. Elle est sortie de mon cœur brûlant d'amour, et je veux que les Français soient les seuls à la réciter, qu'ils disent aussi souvent « Ô Jésus, nous consacrons la France à ton amour. » Et encore, « Ô Marie, nous t'en prions, sois le soutien de la France. » quelle peut être notre participation, hein, au relèvement temporel et spirituel de la France ? Eh bien, certainement, en premier lieu, notre propre conversion. Hein. Combien sont cruellement lucides, hein, sur l'état actuel de notre pauvre pays, mais se contentent d'aborder finalement le catholicisme, parfois sous l'angle erroné de valeurs qui font du bien. Hein. Voilà, ça ne peut pas faire de mal à mon enfant d'aller au catéchisme. Voilà, ça peut lui donner des repères, des valeurs. Hein. En tout cas, voilà, s'il s'y sent bien, il peut y aller. Voilà, alors que le catholicisme, hein, c'est vraiment la rencontre avec une personne divine, hein, le Christ, qui s'opère en premier lieu par la foi, dans la prière et les sacrements de l'Église. Hein, sommes-nous prêts vraiment à mettre le Christ en premier dans notre vie personnelle et familiale ? Parce que, finalement, après avoir vu la place de la France dans les cœurs unis de Jésus et Marie, eh bien, la question se pose de la place de la France dans nos cœurs, hein, la place de Jésus, des cœurs unis dans nos cœurs, dans nos propres cœurs. Nous devons personnellement répondre à la question posée par saint Jean-Paul II, « Es-tu fidèle, toi, aux promesses de ton baptême ?» Voilà. Et si nous sommes infidèles ou si nous avons été infidèles, eh bien Dieu, lui, reste toujours fidèle à ses promesses. Il attend notre retour, ce retour de sa France bien-aimée qui passera par notre propre conversion. Alors que faire pour sortir, hein, de toutes ces crises et de la confusion morale et anthropologique, eh bien, qui a chassé Dieu du monde des hommes ? Là encore, le cardinal Sarah nous en offre une réponse lors de son homélie à la Pentecôte, à la cathédrale de Chartres. Dans ce refus de Dieu et cette crise de la foi, il ne s'agit pas d'abord d'un problème intellectuel ou théologique dans le sens universitaire du terme. Il s'agit de retrouver une foi vivante, une foi qui imprègne et transforme la vie. Si la foi ne retrouve pas une vitalité nouvelle en devenant une conviction profonde et une force réelle grâce à la rencontre personnelle et intime qu'elle instaure avec Jésus, toutes les réformes de l'Église que nous entreprenons resteront inefficaces et vides et nous nous achemineront vers la ruine totale. Cette perte du sens de la foi est la source et la racine de la crise de la civilisation, de la crise de l'Église, de la crise du sacerdoce que nous traversons aujourd'hui. Demandons tous les jours un accroissement de notre foi. Aujourd'hui, poursuivait-il, toi peuple de France, réveille-toi, choisis la lumière, renonce aux ténèbres. Alors, notre parole qu'on entend souvent, c'est « ma sœur, c'est quand même terrible parce qu'en fait, plus personne ne croit, tout se perd, etc. etc. » Voilà. Je pense qu'il faut, tout en étant lucide, hein, cesser certaines lamentations stériles et vraiment croire que notre conversion personnelle, que notre fidélité personnelle, hein, est irremplaçable et source de grande grâce. J'aime beaucoup cette parole de Jésus à Gabriel Bossis, une mystique qui est en train d'être redécouverte, voilà, notamment grâce au père d'Escouvement, cette comédienne qui est morte dans les années 1950, laïque, et qui, vers l'âge de 60 ans, eh bien, a reçu des locutions intérieures de la part de Jésus, d'une grande beauté, de grande profondeur et intimité. Et Jésus lui a dit un jour, « Nous sommes seuls dans l'Église, et ça c'est très important, il lui dit, et pour moi, tu représentes tout le pays. » Demande pardon pour ses infidélités, demande des grâces d'amour pour chacun. Je pourrais donner sans toi, mais ma bonté se sert de vous. Voilà, je pense qu'on peut vraiment réentendre cela, voilà, quand on est un peu découragé du peu de personnes qu'il y a à la messe ou d'être tout seul effectivement dans l'église. Eh bien, nous avons cette responsabilité de représenter tout le pays. Un autre moyen, c'est la culture. Je pense souvent à saint Jean-Paul II, qui dans sa vie, enfin, après la foi, en tout cas, la deuxième réponse, hein, qui a été apportée par le peuple polonais face au fléau qui l'a menacé, avait été de sauver leur culture. Hein, et puis le jeune Karol s'était demandé justement s'il n'allait pas choisir une carrière théâtrale. Voilà. Et donc il faut offrir à nos jeunes, eh bien, les figures héroïques, hein, de ceux qui les ont précédés. Hein, en priorité évidemment les saints, voilà, qui ont fait l'âme de la France. Il faut leur apprendre, réapprendre à aimer la France. Hein, on a tellement falsifié notre histoire. L'abbé Stéphane Drion, chancelier du diocèse de Nice, s'exprimait ainsi dans une homélie. « Oui, notre pays a une âme, Je prends toujours devant les militaires l'exemple du drapeau français, bleu, blanc, rouge. On nous dit que le blanc est la couleur des rois, et le bleu et le rouge, les couleurs de la cité de Paris. C'est vrai, mais quand dans le Larousse, on cherche à creuser un peu, on voit que le blanc du milieu, le blanc du drapeau des rois, fait référence à une tunique de la bienheureuse Vierge Marie, que l'on conserve encore aujourd'hui à la cathédrale de Chartres. Quand on regarde pourquoi les Parisiens ont pris le bleu, c'est parce qu'il faisait référence à un des géants de la charité, un des géants du service du bien commun, un des géants de la charité, à savoir Saint-Martin, qui a évangélisé presque toute la partie nord de notre pays. Et le rouge de la ville de Paris fait référence à Saint-Denis, le premier martyr archevêque de Paris, martyr à Montmartre, le mont des martyrs, ces martyrs qui ont fait la France, comme Blandine, Potin, Denis. Autrement dit, notre drapeau est tout un programme pour la vie d'un habitant du XXIe siècle dans notre pays. La foi de Saint-Denis, la charité au service des autres de Saint-Martin et la fidélité, la pureté, la vérité de la bienheureuse Vierge Marie. Qu'y a-t-il de plus beau ? Voilà. Nous pouvons aussi nous pencher et apprendre à nos jeunes à quoi correspondent le symbole en tout cas des 12 étoiles de notre drapeau européen qui ont été choisis par notamment Schumann, Gasperi, voilà, qui en référence à la Vierge Marie. Voilà. Et après, on essaye de nous faire croire que l'Europe, finalement, n'a pas d'âme, n'a pas d'histoire, n'a pas de racines. Voilà. Et ce prêtre ajoutait dans sa conférence, il faut redonner à notre jeunesse de France le courage d'être fier du sang qui coule dans leurs veines. Nous n'arriverons à ce courage que dans la mesure où chacun d'entre nous aura retrouvé cette identité profonde, sa relation à Dieu, sa relation à ses pères, sa relation à son pays, sa relation à son travail, à tout ce qui le fait vivre. Voilà, un autre moyen de travailler au relèvement de la France, c'est notamment peut-être de travailler à l'unité. Voilà, il y a de belles initiatives, de belles initiatives qui existent, qui jaillissent pour le relèvement spirituel et temporel de la France. Voilà, et il faut sans doute éviter toutes les divisions, voilà, les querelles de clochers, les guerres de partis, les critiques stériles qui freinent cet avènement du règne du Christ en France et dans le monde. Voilà, il faut tâcher de faire monter vers le ciel nos prières d'un seul cœur, d'une seule âme. Voilà, il y a deux ans, je pense, il n'y avait que très peu de prières officielles pour la France. Et regardez aujourd'hui quel motif d'espérance avec les chapelets pour la France, la France prie, les étoiles de Marie, les livrets qui sont distribués largement sur la vocation de la France. Voilà, il y a des exemples parmi d'autres belles et multiples initiatives. Donc je laisse Sœur Geneviève Marie parler des mallettes pour la France.
Alors je vais même vous parler de trois choses. Les mallettes, la consécration et le rosaire vivant. Tout d'abord, la consécration. C'est vrai qu'on parle souvent d'une consécration. Nous l'avons dit tout à l'heure, il y avait cette demande de Jésus à ce que la France lui soit consacrée. Et malheureusement, donc, la France ne l'a pas fait, mais nous l'avons dit aussi. Chacun de nous sommes une petite parcelle de cette France, d'où l'importance aussi de nous consacrer, voilà, en tant que parcelle de cette France aussi. La consécration, de quoi s'agit-il ? En réalité, nous sommes consacrés par Dieu déjà du fait de notre baptême et de notre confirmation, puisque nous avons été consacrés par l'onction, nous avons cette consécration. Et quand nous parlons d'une consécration, il s'agit finalement de renouveler, de réactualiser cette consécration baptismale, et de prendre exemple sur le Christ, et comme le Christ, d'aller toujours plus avant dans notre fiat à Dieu, l'adhésion à la volonté divine. Alors nous pouvons nous consacrer au cœur de Jésus, à Notre-Dame, aux cœurs unis de Jésus et Marie. Effectivement, à chaque fois, ça permet d'actualiser notre consécration baptismale. Et finalement, tout ce que nous allons faire, c'est tout donner par Marie à Jésus et par Jésus au Père. Voilà, faire retour au Père de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous disons, de tout ce que nous faisons, de tout ce que nous pensons, que tout soit donné pour la plus grande gloire du Père. Finalement, vivre cette consécration, c'est faire finalement de l'ordinaire de chaque jour, mais de l'extraordinaire, puisque quelque chose qui est uni plus spécifiquement encore au sang du Christ et qui peut contribuer à cette belle œuvre aussi de la rédemption et de la gloire de Dieu. C'est finalement vivre cette consécration, c'est finalement aussi permettre justement cette extension du règne d'amour du cœur de Jésus en nous et par nous. Voilà donc pour la consécration. Mais je crois qu'il y a des ateliers aussi qui vous permettent de creuser encore davantage cette affaire. Pour ce qui est maintenant d'un autre moyen, Sœur Isabelle vous disait qu'il était ce moyen de la prière. Eh bien, donc, la prière du chapelet est particulièrement efficace, vous le savez. Et parfois, nous avons du mal à dire notre chapelet. Alors, ça peut être un moyen donné que de s'unir les uns aux autres, de se trouver 20 personnes comme ça, qui vont chaque jour prendre en charge un des mystères du rosaire. Et puis, à 20 personnes, nous présentons à Notre-Dame tous les jours les 20 mystères du rosaire. Et c'est une chose qui peut être faite à l'intention particulière de la France. Nous avons un rosaire vivant, qui est en lien d'ailleurs avec le rosaire vivant de Pauline Jaricot, le rosaire vivant de Notre-Dame de Bonheur, où il nous est possible de nous inscrire soit à titre individuel, vous avez des petits papiers pour cela, et puis donc pour la France, vous pouvez aussi vous inscrire pour la famille, pour les prêtres, ou pour toutes les intentions. Et vous recevrez une feuille de route qui vous indiquera tous les dimanches l'intention et le mystère dont vous êtes plus spécifiquement chargé pour la semaine. Et en sachant que vous êtes du coup mis dans une couronne avec 20 autres personnes qui, elles, seront chargées des autres mystères, et le dimanche d'après, tout le monde bascule au mystère d'après. Ça peut être fait donc soit à titre individuel, soit vous voulez constituer vous-même votre couronne, et vous savez qui est dans la couronne, et avec des amis, des familles, on a pas mal de couronnes de famille qui entre eux, voilà, se soutiennent dans la prière et assurent justement cette prière des 20 mystères pour la France. Ça, c'est le rosaire vivant de Notre-Dame de Bonheur. Et troisième petite chose que je voulais vous présenter, c'est précisément ces mallettes. Alors, quel est le but des mallettes ? Le but des mallettes, c'est justement de nous permettre, alors ça a été mis en place lors de la venue du cardinal Sarah à Draguignan, c'est un des moyens pour répondre à l'appel pressant de Saint Jean-Paul II au Bourget. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême? France, éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'humanité à l'alliance avec le Père éternel? Voilà, comprenons que la question de Saint Jean-Paul II ne s'adresse pas à une vague entité totalement extérieure à nous qu'on appelle France. D'un côté, c'est vrai, la France nous transcende, mais de l'autre, c'est nous qui la composons et lui donnons son visage. Le but de la mallette est donc un des moyens pour répondre à cette question vitale de Saint Jean-Paul II. La France a besoin de notre oui, un oui quotidien à Dieu. Elle a besoin de notre sanctification, comme le disait tout à l'heure Sœur Isabelle, sanctification personnelle et familiale. Et travailler au relèvement de notre cher pays par notre sanctification, cela passe par trois axes: s'unir à Dieu, se former, intercéder. Eh bien voilà, c'est justement en ce sens que veulent nous aider ces petites mallettes. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, si donc nous travaillons en ce sens, des milliers d'autres le feront, et Dieu pourra à nouveau, selon l'expression donnée à Marcel Van, donner son sourire à la France. En revanche, si nous ne nous impliquons pas, nous n'avons aucune garantie que d'autres se donneront le mal de cela. Alors quel est le contenu de cette mallette? Cette mallette contient plusieurs éléments. De quoi compléter notre coin prière. Il contient également des livres de formation sur l'histoire et la vocation de la France, des livrets de prière et un catalogue. Nous allons vous montrer tout cela. Donc le catalogue propose un parcours de formation et de prière. Ce parcours se déroule en plusieurs étapes. Et finalement, donc chaque famille ou chaque personne le prend à son rythme. Et à chaque étape, il y a une possibilité d'un renvoi pour creuser tel ou tel point, selon là où nous en sommes et ce que nous voulons davantage développer. C'est donc un parcours qui est adaptable à chacun. Alors, ces mallettes, il y en a trois qui circulent à Draguignan, dont nous sommes responsables, mais il y a également quelques mallettes qui circulent en France. Donc, il nous faut évidemment un responsable qui est chargé de veiller à sa circulation, et puis qui va être chargé aussi de faire l'inventaire après chaque passage dans une famille, parce que même avec les meilleures volontés, il y a souvent des oublis dans les bibliothèques ou autres. Voilà. Et ces mallettes circulent à peu près en moyenne 2 à 3 semaines dans chaque famille, le temps de faire le parcours. Il est aussi possible de la redonner à d'autres familles ensuite, et puis de la reprendre enfin pour pour compléter. Voilà, il y a plusieurs pistes qui sont également données dedans. Vous voyez, ce sont des petits moyens. Voilà. Plein de petits moyens, à chacun aussi de trouver comment au mieux développer cela. Mais c'est vrai que nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour travailler aussi à ce relèvement de notre pays. Et c'est merveilleux, à nous de nous lancer, de persévérer et d'en être également témoin. Je vais laisser Sœur Isabelle conclure.
Nous devons conclure et je le ferai avec la citation d'un pape sur la France, puisque les papes ont nourri aussi notre méditation durant ces conférences. De Léon XIII, dans une lettre au cardinal Langeigneux, archevêque de Reims, du 6 janvier 1896. Donc je le cite, « Si la France céda parfois à de déplorables entraînements, toujours, après avoir souffert, elle sut réagir contre le mal et puiser dans sa foi de nouvelles énergies pour se relever de ses épreuves et reprendre la mission apostolique qui lui a été confiée par la Providence. » Oui, nous prions le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, dans toute la véhémence de notre tendresse paternelle, qu'il donne à la France d'être une nation sainte, immuablement fidèle à son génie, à ses racines destinées, que la foi de ses aïeux, une foi pleine, active, militante, grandisse dans ce noble peuple, qu'elle reconquière les masses qui s'agitent aujourd'hui dans les ténèbres de l'incrédulité et qui, déçues, découragées parmi l'erreur, s'affaissent dans l'ombre de la mort. Levez-vous, et le Christ vous illuminera. » Et une autre dernière citation pour la route d'un agriculteur et professeur de philosophie à Toulouse et Montauban, donc de Arnaud Jaillir, et je le cite, d'une conférence sur le catholicisme dans l'identité française, voilà, dans un ouvrage « L'identité nationale » aux éditions Contretemps. « C'est un fait, la déchristianisation va de pair, dit-il, avec la défrancisation. Inversement, la Renaissance passe par le christianisme, porteur de toutes les résurrections. Ce mal français est ancien et le débat reste ouvert. À ce stade, la France est-elle simplement comateuse ou bien réellement morte ? Peu importe. C'est le Christ qui a fait marcher la France, jeune fille endormie. C'est lui qui fait sortir Lazare du tombeau. Avons-nous assez de foi pour confier au maître de la vie la France tout entière, au-delà de nos personnes, de nos familles et amis, nos métiers et nos biens, nos écoles et nos enfants. Il est donc permis d'espérer que demain, la France ressuscite. Alors, la prière de Peggy pour la patrie sera exaucée. Cette prière, vous la connaissez, et nous pouvons, je crois, la répéter. Il faut que France, il faut que chrétienté continue. »